Ils sont tous là. Ils vous attendent à l'entrée de toutes nos villes, petites ou grandes, même à l'entrée des villages. Ils sont tous là. Les McDonald's, les Burger King, les Subway, les Pizza Hut, les Mike's, les belles provinces et aussi les Tim Hortons. Ils sont tous là. Ils vous tendent les bras le long de toutes les rues et toutes les routes qui conduisent à nos villes. Il vous invite à venir manger chez eux. C'est une manière de nous dire combien notre civilisation est préoccupée par l'idée de manger. Le long de ces routes, ce ne sont que des restaurants les uns derrière les autres. Et manger est important, nous mangeons 3 fois par jour dans nos sociétés occidentales, alors qu'à l'autre bout du monde, parfois même pas trop loin encore, beaucoup de gens n'ont pas l'occasion de manger 3 fois par jour. Lorsque nous parlons de manger, nous souhaitons souvent faire un bon repas. Pour nous, un bon repas, c'est un repas où on va nous servir des mets savoureux, des choses vraiment bonnes à manger. Un bon repas, c'est un repas qui va flatter notre palais. Un repas où on va servir des aliments qui vont nous faire plaisir par rapport au goût. Et aussi, on espère qu'il y aura la quantité nécessaire. Là, on a fait un bon repas. Un bon repas est en proportion de la qualité de la nourriture qu'on va nous servir. Dans d'autres cultures, et en particulier dans la culture biblique, un bon repas n'est pas d'abord associé à la qualité de la nourriture. C'est d'abord associé aux personnes avec qui on va partager ce repas. Et si je peux m'exprimer de cette façon-là, un bon repas dans la Bible, c'est un repas que l'on partage avec quelqu'un que l'on aime, avec quelqu'un pour qui nous avons de l'affection, du respect, un attachement particulier. On retrouve cette notion d'ailleurs dans plusieurs civilisations encore aujourd'hui. Le bon repas, c'est le repas que l'on va partager avec quelqu'un avec qui on a entretenu une relation spéciale. Et le repas, ça sera d'abord un signe d'amitié, un signe de fraternité, un signe d'amour, un signe de communion. Et alors évidemment, refuser un repas dans un contexte semblable, c'est une véritable déclaration de guerre. Refuser un repas, c'est véritablement rejeter la personne, rejeter son amitié, rejeter son affection. C'est manifester envers elle du rejet, de l'hostilité. Et dans ces contextes-là, rejeter un repas, refuser un repas partagé avec quelqu'un, est un véritable affront. Dans notre compréhension aujourd'hui du repas, nous avons d'abord un souci fonctionnel. Il faut nourrir notre corps et nous avons aujourd'hui le souci de chercher les aliments qui vont le mieux possible répondre aux besoins de notre corps. Et puis on va chercher les aliments les plus sains possibles. Nous allons être principalement préoccupés par la qualité des aliments que nous allons retrouver sur notre table. Maintenant, les personnes avec qui on va les manger, ça c'est secondaire. Ça peut avoir une certaine importance, mais quand on parle du repas, on parle d'abord de ce que l'on va manger et de ce qu'on va boire. Dans la Bible, bien entendu, les choses sont différentes. C'est effectivement d'abord un signe d'amitié, un signe d'alliance avec quelqu'un. Et j'aimerais prendre plusieurs passages dans les Écritures pour rappeler justement le sens du repas partagé dans le contexte biblique. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, où nous avons là une discussion entre Abraham et Dieu. Genèse, chapitre 15. Dieu, dans cet événement-là, va inviter Abraham à faire des sacrifices. Et il est dit au verset 10, « Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. » Verset 12. Au coucher de soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur, une grande obscurité l'assaillit. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Et un petit peu plus loin, au verset 18, il est dit, « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Ici apparaît la notion d'alliance. Il nous est dit que dans cet événement-là, Dieu va faire alliance avec Abraham. Dans le langage de l'Ancien Testament, on va dire couper une alliance. Et c'est le sens de ce que Dieu propose à Abraham de faire lorsqu'il coupe ses animaux par le milieu et qu'il les place, les morceaux face l'un à l'autre. Couper une alliance, c'est ce que Dieu fait ici avec Abraham. Il coupe une alliance. En français, il fait alliance avec Abraham. Dans un passage que nous trouvons un peu plus loin, au chapitre 18 de la Genèse, nous retrouvons cette idée du repas partagé. Abraham est dans sa tente et il voit venir à lui trois hommes. Il va pratiquer l'hospitalité qui est une vertu cardinale de cette culture. Et il nous est dit par exemple au verset 3, « Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. » Il les invite à venir, à se reposer et à manger un brin chez lui. Finalement, quand on lit la suite de l'histoire, on se rend compte qu'il va vite aller voir sa femme et lui dit « prépare vite des gâteaux ». Il va aller voir son serviteur et lui dit « tue un veau, prépare ». Et finalement, ce petit casse-croûte devant la tente va devenir un véritable repas. Verset 8, il est dit « il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté ». Et il les mit devant eux, il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Abraham invite ses voyageurs à prendre un repas chez lui. Et curieusement, c'est pendant ce repas qu'une annonce particulière sera faite. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Et c'est à ce moment-là, pendant ce repas, que l'Éternel va faire à Abraham l'annonce de ce fils, le fils de la promesse. L'un de ses voyageurs, comme il est présenté dans les versets suivants, s'appelle l'Éternel. C'est au cours de ce repas que cette alliance va se faire, que la promesse va être donnée. Une promesse extrêmement importante parce que derrière ce fils promis, se cache aussi une image du Sauveur promis. Un peu plus loin, toujours dans Genèse, au chapitre 31, nous retrouvons cette idée du repas partagé. Chapitre 31, Jacob est chez Laban pendant des années. Il s'est marié avec Léa parce qu'il n'a pas pu se marier avec Rachel. Il s'est marié avec Rachel après 7 années de travail. Il a fait prospérer les affaires de Laban et un jour, il en a assez. Il en a assez et il part. Sans dire merci ni au revoir, il s'en va. Prend ses femmes, ses enfants, ses biens, ses troupeaux, ce qu'il considère être à lui, et il s'en va. Quand Laban revient, Jacob est parti. Il est furieux, il va à sa poursuite, et finalement, les deux clans se rencontrent, il y a une grande tension entre les deux. Et il nous est dit au verset 45, Genèse chapitre 31, verset 45, Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Et ils prirent des pierres et ils firent un monceau. Et ils mangèrent là, sur le monceau. Il y a une tension. Alors on va créer un monument et on va manger ensemble. D'ailleurs, juste après, au verset 46, Laban dit, « Que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. » une alliance de paix qui est accordée ici, et dans cette alliance, on va manger, on va partager le repas. On retrouve dans le deuxième livre des rois, au chapitre 6, une histoire intéressante que vous connaissez. Le roi de Syrie veut prendre le prophète Élisée parce que le prophète interfère dans les plans qu'il a. Alors il envoie son armée, un grand nombre de soldats, pour capturer un homme, dans la ville de Dothan, vous connaissez cette histoire. Et il va encercler la ville pour prendre le prophète. Vous vous souvenez comment le serviteur du prophète, sortant de la maison le matin, voit la ville assiégée par des milliers de soldats. Il panique, il va voir le prophète et lui dit « Mais qu'allons-nous faire ?» Et le prophète lui dit « Ne t'inquiète pas. » Il demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et son serviteur voit sur les collines environnantes les milliers et les milliers d'anges qui sont venus pour défendre le serviteur de Dieu. Et ce serviteur va voir ce que personne d'autre ne peut voir. Alors Élisée va accomplir quelque chose d'intéressant. Et je trouve passionnant de voir non seulement l'amour de Dieu, mais l'humour de Dieu. Élisée va descendre et va demander: qui cherchez-vous? Nous cherchons Élisée. Pas de problème, je vais vous conduire vers lui. Et il demande à Dieu de frapper d'aveuglement tous ses soldats. Et voilà une armée entière aveugle. Suivez-moi, je vais vous conduire vers le prophète. Et prophète en tête, toute l'armée des Syriens aveugles rentre dans la ville de Samarie. L'armée est là, dans la ville de Samarie, et maintenant le prophète dit: « Eh bien, ouvrez vos yeux maintenant. » Et toute l'armée se sent prise dans la ville. Le roi d'Israël se tourne vers le prophète et lui dit: « Ça, c'est une affaire en or. Est-ce que je les frappe? C'est le moment. » « Malheureux, ne fais pas ça, dit le prophète. Surtout pas. Donne-leur à manger. » Le roi ne s'attendait pas à ça. Il était prêt à tirer l'épée. Et voilà qu'il faut sortir les casseroles et la nourriture. Et il faut nourrir tout le monde. Et voilà que le roi d'Israël va nourrir là, dans Samarie, toute cette armée ennemie, lorsque tout le monde a bien mangé, bien bu. L'armée retourne chez elle. Et le texte nous dit, à la fin de cette histoire, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, que les Syriens ne sont plus revenus sur le territoire d'Israël. Ils ont mangé ensemble. C'est un signe d'alliance qui est sacré. On ne peut pas le profaner. Maintenant, il est un dernier texte que j'aimerais regarder avec vous dans le livre de l'Exode, que vous avez sans doute déjà lu, mais qui est extraordinaire quand on y pense. Exode, chapitre 24. Moïse vient de pratiquer un sacrifice, et suite à cela, il va purifier le peuple, et il dit ceci. Nous allons lire à partir du verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » C'est dire à quel point on est là dans le contexte de l'alliance que Dieu fait avec son peuple, le sang de l'alliance. Maintenant, regardez les versets suivants. Verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et ils burent. Avez-vous remarqué que Moïse, Aaron, Nadab et Abihu, ses fils, et les 70 chefs d'Israël montent et voient Dieu? Le texte ne nous dit pas ce qu'ils ont vu, mais ils étaient en présence de Dieu et ils ont mangé et ils ont bu. En présence de Dieu. Vous imaginez le privilège que cela représente? Partager un repas avec l'Éternel. C'est ce que ces hommes ont vécu. Partager un repas avec Dieu. Dans le cadre de cette alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu. Dieu avait donné le livre de l'alliance et ils avaient dit: nous obéirons à ce que Dieu nous demande de faire. Alors ils sont montés, ils ont partagé ce repas avec Dieu. Les sacrifices, dans la suite de l'expérience du peuple d'Israël, vont prendre une importance particulière dans le cadre des services du temple. Ils vont être importants parce que les sacrificateurs eux-mêmes vont manger la viande des sacrifices. Ils vont en faire des repas, et ce sera des repas partagés avec le peuple et avec Dieu. Dans l'Exode, encore au chapitre 16, cette idée du repas et de la nourriture prend une dimension particulière parce qu'arrivé dans le désert, le peuple n'a rien à manger. Et Dieu va nourrir son peuple chaque jour. Chaque matin, en ouvrant leur tente, ils auront la manne, juste à leur portée, qu'il suffit de ramasser, chacun prenant ce dont il a besoin pour cette journée-là. Et vous vous souvenez que cette manne n'était bonne qu'une journée, On ne pouvait pas en ramasser le lendemain pour faire des provisions. Dieu ici enseigne à son peuple qui est dans le désert une chose extraordinairement importante, que nous avons besoin d'ailleurs aussi d'apprendre. La nourriture que nous prenons de la part de Dieu, la nourriture spirituelle, elle n'est bonne que pour une journée. Dieu nous invite chaque jour à prendre notre repas spirituel avec lui. Et puis Dieu enseigne à ce peuple qu'il est entièrement dépendant de lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Dieu voulait enseigner cette vérité à ce peuple en leur montrant qu'il leur donnerait chaque jour ce dont ils avaient besoin. Chaque jour. Ainsi, lorsque Jésus vient et prend le casse-croûte de ce petit garçon, où il y a 5 pains et 2 poissons, et qu'il nourrit des milliers et des milliers de gens, Jésus là reprend ce thème du repas partagé et le partage là avec cette foule qui est avec lui. Cette foule qui est émerveillée de voir que Jésus est capable de faire finalement ce que Moïse avait demandé à Dieu de faire, de nourrir le peuple avec rien, quasiment. Ainsi, Jésus, dans ce discours qu'il va prononcer le lendemain de cette multiplication des pains, va dire des choses que les gens n'ont pas compris. Jésus essaye de les attirer vers l'autre nourriture, la nourriture spirituelle. Eux, ils sont restés au niveau pain et poisson. C'est ce qui les intéresse. Et Jésus va leur dire, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » En leur disant, « La manne que nos pères ont mangée, c'est pas ça le pain qui est descendu du ciel. Le pain qui est descendu du ciel, c'est moi qui me tiens devant vous, dit Jésus. » Difficile à comprendre. Et le pire, c'est que Jésus a un langage qui, pris au premier degré, n'a pas de sens pour eux. En vérité, je vous le dis, Évangile de Jean, chapitre 6, verset 53. Si vous ne mangez la chair du Fils de Dieu, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Pour ceux qui en sont restés dans leur esprit, au pain et au poisson, à ce qui se mange quand on a faim, ce langage n'a pas de sens. Et c'est la raison pour laquelle, vers la fin de ce chapitre 6 de l'Évangile de Jean, il nous est dit que plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent parce que, vraiment, il va trop loin. Ce repas partagé, Jésus l'exprime en disant « Vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang si vous voulez avoir la vie qui est en moi. » Difficile à comprendre. Il faut replacer tout cela dans le cadre de ce repas partagé, de ce repas de l'Alliance comme on l'a vu dans l'Ancien Testament. Tous ces exemples que nous avons vus sont des exemples qui nous montrent à quel point le repas dans l'Ancien Testament revêt cette idée d'alliance conclue entre Dieu et les hommes. On va manger ensemble. Et le texte du livre de l'Exode, au chapitre 24, est extrêmement fort parce que le peuple fait alliance avec Dieu et ses chefs, ses responsables, viennent manger avec Dieu sur la montagne. J'aurais voulu être dans cette équipe-là. J'aurais voulu être avec eux. Manger avec Dieu. Mais la Bible nous parle d'autres repas partagés et tous ces textes sont en complète opposition avec ce qui se passe, par exemple, dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Dans le livre de la Genèse au chapitre 3, Dieu avait donné une recommandation à Adam et Ève. Il leur avait dit « Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, n'y touchez pas. N'y touchez pas parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Et vous savez ce qui s'est passé dans les versets suivants qui nous sont rapportés dans le livre de la Genèse? Il nous est dit que le serpent a parlé. Extraordinaire. Et qu'il a séduit la femme. Finalement. Et il nous est dit dans Genèse chapitre 3 verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Ici, nous avons un repas partagé, mais avec le diable. Ils ont mangé avec le diable. Ce qui s'est passé dans ce texte et qui nous est rapporté très succinctement par Moïse dans ce chapitre a souvent été l'objet d'interprétations terriblement fantaisistes. Mais comprenez ici, dans le contexte, ce qui se passe. Adam et Ève partagent un repas avec le diable. Autrement dit, ils ont fait alliance avec le diable. Ils ont, autrement dit, accepté ce que le diable leur a dit juste avant, c'est-à-dire, vous ne mourrez point, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Et ils ont accepté cela. Et ils ont mangé avec le diable, fait alliance avec le diable. À partir de ce moment-là, on comprend que ce geste ait des conséquences plus importantes que ce qu'il paraît. Parce qu'effectivement, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est une grosse affaire? Kev est croqué la pomme, enfin c'est pas si grave que ça. Est-ce que ça doit s'appeler le péché de manger une pomme quand il ne faut pas? Et vous comprenez dans le cas particulier qu'il y a là beaucoup plus. Il y a véritablement une alliance, un pacte qui est fait avec l'ennemi. L'acceptation de sa rébellion. C'est ainsi que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont mangé avec le diable. Ces repas avec le diable se sont continués dans l'histoire d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël a pratiqué les cultes païens que les peuples environnants pratiquaient, ils ont continué ces pratiques. Regardez par exemple dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18. Dans ce chapitre, le prophète rappelle que chacun est responsable de sa réponse envers Dieu. Le salut est individuel, on n'est pas sauvé en bloc. Il dit d'ailleurs, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et il est dit dans Ézéchiel, chapitre 18, au verset 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles et la maison d'Israël, et il continue par d'autres choses regrettables. Il continue à la fin, au verset 9, il dit, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel fait ici allusion à ces repas qui étaient pris par ses adorateurs de différentes idoles sur le sommet des montagnes. Finalement, des repas qu'il prenait avec les démons. À l'image de ce premier repas dans le jardin d'Éden, partagé avec le diable. Dans Ésaïe, au chapitre 66, nous retrouvons la même notion, dans un cadre cette fois-ci qui se rapproche de la fin des temps. Les derniers chapitres du livre d'Ésaïe étant des chapitres qui s'adressent à la fin des temps. Et il est dit par exemple au verset 16, Ésaïe 66, verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient, qui se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres, leurs pensées, le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, elles viendront, elles verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur rescapé vers les nations. Vous remarquez, dans ce contexte, il est fait allusion à ces cultes païens, où l'on va manger de la viande impure, et où il y a toute cette prostitution qui se fait dans le cadre de ces cultes païens. Et l'Éternel dit, ces gens-là périront. C'est dire combien, à la fin des temps, Dieu considère l'alliance qui est faite avec lui comme quelque chose d'extrêmement sérieux. Et tous ceux qui continuent à manger avec le diable, c'est-à-dire à lui obéir, à accepter ses propositions, à accepter son programme et son plan du salut à lui, tous ceux-là périront par le feu, dit l'Éternel. Nous sommes dans le dernier chapitre du prophète Ésaïe. Nous sommes aussi dans le dernier chapitre de l'histoire du monde. C'est dire à quel point Dieu considère cette idée de partager le repas comme extrêmement significative. Et les viandes impures, dans ce contexte-là, sont aussi prises très au sérieux par Dieu à la fin des temps. Ainsi, il y a repas de rébellion avec le diable, dans lequel les humains partagent leur rébellion contre Dieu. Et puis, il y a le repas avec Dieu. Et la question est de savoir, oh, ce n'est pas de savoir si le repas va être bon ou mauvais, si les aliments seront à notre goût, s'ils seront biologiques ou pas. Dans notre contexte, la question est de savoir, avec qui partageons-nous le repas? Dans son sens le plus profond, ce repas d'alliance, d'amitié, de fraternité, avec qui le partageons-nous? Le Seigneur nous propose plusieurs repas. Le premier repas que le Seigneur nous propose, c'est celui qu'il propose à son peuple lorsqu'il le libère de l'Égypte, le repas de Pâques. Et dans ce repas, c'est lui-même qui apporte le menu, parce que c'est l'agneau que l'on va sacrifier et c'est l'agneau que l'on va manger. Dans ce repas, c'est Dieu lui-même qui est le sacrifice. Pour faire comprendre à quel point, lorsque le Seigneur nous propose de faire alliance avec lui, il est lui-même le garant de cette alliance qu'il nous propose. C'est lui qui en paye les frais, si je peux m'exprimer de cette façon. Ce premier repas proposé au peuple, c'était véritablement l'alliance dans laquelle Dieu se donne lui-même. Avant que le peuple ne fasse quoi que ce soit, la garantie de la délivrance par l'action de Dieu. Et puis il y a un autre repas, bien sûr, qui lui donne suite, qui est ce repas que Jésus a partagé avec ses disciples juste avant de mourir. C'était la Pâque, et il a transformé cette annonce en un mémorial. Vous ferez ceci en mémoire de moi. C'est ce repas qu'il partage en disant, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est le repas que nous allons partager ce matin. C'est le sens du repas que nous allons partager ce matin. Et bien sûr, dans ce repas de Sainte-Cène, nous reprenons le sens biblique, parce que la quantité n'y est pas, la qualité n'y est peut-être pas non plus. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de savoir avec qui nous partageons ce repas. C'est le repas que le Seigneur nous propose de partager avec lui, c'est-à-dire de renouveler cette alliance que nous avons faite avec lui, alliance que nous avons faite par le baptême. Et puis, il y a bien entendu un autre repas que le Seigneur nous propose de prendre avec lui. Regardez dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, une parabole dans laquelle Jésus fait allusion à ce repas. Évangile selon Matthieu, chapitre 22. Il donne ici la parabole du festin. Et il est dit au verset 3, « Le roi envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. » Mais ils ne voulurent pas venir. Vous connaissez cette histoire. Le roi prépare un repas de noces. Et les invités au dernier moment sont occupés à des choses plus importantes que ça. Mais pour le roi, y a-t-il quelque chose de plus important que partager ce repas de noces avec ses amis? Y a-t-il dans la vie de ces gens des choses plus importantes que de répondre à cette invitation? À cause de ça, ils seront condamnés. Et le Seigneur enverra chercher tous ceux qui veulent venir, qu'ils viennent partager ce repas d'alliance. Vous vous souvenez, au verset 7, il dit « Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ouvert à tous, ouvert à tous ceux qui veulent. Ce repas, finalement, que les chefs d'Israël ont partagé avec Dieu sur la montagne, il est ouvert aujourd'hui à tous, dans ce repas de Sainte-Cène, mais il est ouvert aussi à tous, dans le repas que le Seigneur nous propose de prendre et dont il est question dans Apocalypse, chapitre 19. Ce grand repas qui est présenté aussi comme le repas des noces. Apocalypse, chapitre 19, il est dit ceci au verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Voilà le repas auquel nous sommes invités, les noces de l'agneau. Repas qui est l'antidote, si l'on peut dire ainsi, de ce repas pris avec le diable dans le jardin d'Éden. L'autre repas auquel le Seigneur nous invite, où ce problème du mal, où cette alliance avec le diable aura été rompue, dissoute complètement. Et il nous proposera de partager à nouveau les signes de son sacrifice. Dans un repas qui sera le début d'une alliance éternelle, la vie éternelle. Le Seigneur nous invite à un repas. Dans le même livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, nous retrouvons cette même interpellation. Elle se trouve curieusement dans la lettre que Jésus adresse à l'église de Laodicée, la dernière église, l'église des derniers temps. Et à cette église de Laodicée, il écrit ceci, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On pourrait à prime abord se dire, mais enfin, est-ce que la seule récompense que l'on a d'ouvrir notre porte ou notre cœur à Dieu, c'est de partager un repas avec lui? Mais il y a dans ce repas infiniment plus que cela. Ce souper auquel le Seigneur nous invite, c'est celui qui est représenté par ce que nous allons vivre ensemble et qui est ce souper où lui-même se donne en sacrifice. Un avant-goût, si je peux dire, du repas des noces de l'agneau que nous sommes invités à partager avec lui le jour où il reviendra. Je frappe à la porte. Le Seigneur frappe à la porte de la vie de chacun de ceux qui constituent cette église de Laodicée. Et il propose un repas. Il propose une alliance solide parce que c'est le dernier moment avant la fin. Le Seigneur Jésus se prépare à revenir et il lance un dernier appel pour que nous ouvrions la porte de notre vie à sa présence, à une alliance. Il propose autrement dit à tous ceux qui n'ont pas fait encore alliance avec lui par le baptême, à le faire avant qu'il soit trop tard. Et puis à tous ceux qui ont fait alliance avec lui par le baptême, il propose de vivre ce repas en attendant le vrai repas, celui de l'éternité. Nous pouvons aussi nous nourrir spirituellement comme Jésus le suggérait par sa parole. Mais sa parole nous aide à comprendre avant tout qui il est. Vous vous souvenez dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 10, Jean était invité à manger un petit livre, manger un livre prophétique. C'est-à-dire à véritablement le faire sien, ce message prophétique. Parce qu'à la fin du chapitre 10, il est dit, tu devras prophétiser encore. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire dans cette époque qui est la fin des temps. À prophétiser encore. Prophétiser par le partage de notre foi. Prophétiser par notre vie, qui doit ressembler de plus en plus à celle du Christ. Prophétiser, c'est-à-dire parler de la part de Dieu à un monde qui n'a pas encore appris à partager un repas avec Dieu, à faire alliance avec lui. En effet, cette parole prophétique, nous sommes invités à la faire nôtre, pour qu'elle ait du goût aux gens de notre siècle. Ainsi, le Seigneur nous propose de venir manger à sa table. Dans le texte d'Ésaïe, au chapitre 55, se trouve cette invitation. Et je vous propose de la relire en terminant. Ésaïe chapitre 55. Dès le premier verset, il est dit ceci. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. » Et un peu plus loin, au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Cette invitation, elle est pour nous aujourd'hui. À partager un repas dans le sens où Dieu veut le partager avec ceux qu'il aime par-dessus tout. Et vous avez remarqué comment dans ce texte, il invite à venir sans rien. Ce repas, mais ce n'est pas un potluck où vous devez apporter chacun votre morceau. Venez tel que vous êtes. Dieu a déjà pourvu. Et il dit, je traiterai avec vous une alliance éternelle. C'est dans cette alliance éternelle que le Seigneur nous propose la vie éternelle. Elle est ouverte, elle est disponible aujourd'hui. Le Seigneur nous invite à la saisir par la foi en attendant son retour. Amen.